Je vais l'enregistrer.
Bien sûr.
Potage, change.
Donc,
voilà. Je résume un petit peu ce qui a été ma démarche pour l'étude du thème, comme je vous l'ai présenté hier et avant-hier. Au départ, je me pose la question, qu'est-ce qu'un thème ? Et cette question, je me la pose en étudiant les travaux qui se sont portés sur cette notion de thème. Autrement dit, je me fie, pour savoir ce que c'est qu'un thème, je me fie à la connaissance aux études qui se sont portées sur cet objet. D'accord ? Et puisque la question est qu'est-ce qu'un thème ? Ce que j'ai regardé d'abord dans ces travaux, ce sont les définitions qui sont proposées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec ces définitions, puisque le problème de ces définitions, c'est qu'on avait du mal à trouver un point commun entre ces définitions. Autrement dit, j'ai commencé par aborder la notion de thème du point de vue de la connaissance. Hein ? Qu'est-ce que c'est que la connaissance du thème ? Cette connaissance étant à mes yeux problématique du point de vue de la définition, mon point de vue est devenu épistémologique. C'est-à-dire que je me suis demandé, mais quel est le problème que pose la notion de thème à la connaissance des thèmes ? D'accord ? C'est donc bien un point de vue épistémologique que j'ai été amené à adopter en travaillant sur les définitions qui étaient proposées de la notion de thème. Mais en même temps, ce problème, de la manière dont il a fini par être dégagé par moi, j'en ai parlé en disant qu'il y avait quelque chose dans la notion de thème qui résistait, non pas seulement à sa définition, mais aux conditions de la définition. Et les conditions de la définition, c'est l'objectivation disciplinaire. Qu'est-ce que j'ai dit alors ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que c'est que cette notion de résistance ? En quoi un objet peut-il résister à sa connaissance ? C'est qu'en fait, je me suis encore déplacé. Je ne fais plus alors seulement une interrogation épistémologique, mais j'ai fait appel à ce que j'ai appelé un statut ontologique. Donc, je suis parti de questions d'abord épistémiques. Qu'est-ce qu'un thème ? C'est une question épistémique. Je me pose la question pour savoir ce que c'est. Je suis allé voir ce que les autres en pensaient, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans la connaissance du thème, j'ai dû établir le problème d'un point de vue épistémologique. Et pour rendre compte du problème épistémologique du thème, j'ai observé que l'objet même opposait une certaine résistance à sa connaissance, et cette résistance, elle est, dirait-on, d'un type ontologique. Terme qu'on peut mettre, si vous voulez, en parenthèse, parce que, évidemment, l'ontologie d'une notion peut être quelque chose qui pourrait aussi appeler à un commentaire. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir d'abord à la question épistémique, à savoir, à présent que nous avons vu qu'il y a bien un problème épistémologique à la connaissance de la notion de thème en raison de la nature ontologique même de l'objet, c'est-à-dire du thème, se repose tout de même la question épistémique, à savoir comment connaître un thème. Est-ce que c'est possible de connaître un thème en prenant compte de la résistance qu'il oppose précisément à cette connaissance? Et là, effectivement, j'ai trouvé effectivement des études thématiques qui me semblent rendre compte de manière adéquate, de sa constitution ontologique et des problèmes épistémologiques qu'il suscite en lui-même, par lui-même, par cette nature. Et en particulier, un auteur, il se fait que cet auteur a beaucoup à voir avec la sémiotique, à savoir Roland Barthes, m'a paru rendre compte d'une façon qui me paraissait extrêmement sensible et appropriée de la notion de thème, et donc en tant qu'objet de connaissance, en tant que la manière dont on pourrait connaître un thème. Alors, je fais référence ici en particulier au dernier Roland Barthes, c'est-à-dire au Roland Barthes qui a été professeur au Collège de France. Et donc Roland Barthes a été élu au Collège de France en 1976. Il a prononcé sa leçon inaugurale au tout début de l'année suivante, 1977, et il a eu le temps de faire 4 années de cours au Collège de France. Vous savez, le Collège de France, c'est un programme extrêmement prestigieux dans l'institution française, où donc l'enseignement est extrêmement réduit, puisque les professeurs élus au Collège de France, ils sont élus par leur père, c'est-à-dire ce sont les autres professeurs qui élisent tous les professeurs qui sont en charge d'un enseignement au Collège de France. Et si je me rappelle bien, l'obligation, bon, je ne sais plus exactement combien, mais je crois que c'est 18 heures. Ils sont tenus de donner 18 heures de cours par an, donc, c'est-à-dire vraiment très peu de choses, ainsi qu'un séminaire. Donc il y a 18 heures de cours ex cathedra et je crois la même chose en séminaire. Donc très peu de choses par rapport, vous savez bien quelle est la charge d'un professeur dans les universités en général. Donc Roland Barthes a dispensé pendant 4 années un seul cours par an au Collège de France, et ce sont surtout les deux premiers cours qui m'intéressent ici. Le cours de l'année académique 76-77 et le cours de l'année académique 77-78. Le premier cours, donc la première année, le cours s'intitulait « Comment vivre ensemble ?» Vous comprenez ?« Comment vivre ensemble ?» Et la deuxième année, c'est le cours avait pour sujet le neutre. Alors, parmi les quelques très rares obligations d'un professeur au Collège de France, il y a le petit devoir de rédiger en une page ou deux un rapport d'activité annuel. Et ce rapport annuel, donc d'une page ou deux, il doit expliquer ce qu'il a fait pendant cette année-là au Collège de France, et c'est donc pour l'administration, et d'ailleurs c'est censé être inédit, mais il se fait que depuis sa mort, nous avons, donc ces rapports ont été publiés dans les œuvres complètes de Roland Barthes, dans la deuxième édition, celle en 5 volumes, qui est apparue en 2002 au Seuil. Et c'est ce rapport, c'est quelques citations de ce rapport que je voudrais vous lire. Il disait qu'il s'agissait d'abord de lier la recherche à l'imaginaire du chercheur. lier la recherche, parce que c'est ça, un professeur au Collège de France, son cours consiste à exposer sa recherche, et il disait lier la recherche à l'imaginaire d'un chercheur, et pour ce qui concerne la première année, donc le comment vivre ensemble, il s'est proposé d'explorer un imaginaire particulier qu'il va nommer, que Barthes nomme le vivre ensemble. Le vivre ensemble est donc un imaginaire particulier. Et puis il l'appelle encore autrement, cet imaginaire particulier, il va l'appeler le fantasme d'idiorythmie. Hein, donc, fantasme étant donc ici l'équivalent d'imaginaire, hein, valant pour imaginaire, d'idiorythmie, valant donc ici plus ou moins pour le vivre ensemble. Idiorythmie, en grec, c'est même rythme. Voilà donc le sujet du cours. Il ne s'agit pas donc, le sujet du cours, encore une fois, ce n'est pas le vivre ensemble, ce n'est pas l'idiorythmie, c'est le fantasme d'idiorythmie, c'est l'imaginaire du vivre ensemble. Voilà le sujet du cours. Et la question, donc, vous comprenez bien que, pour moi, je pourrais, dans mes termes, parler de thème. Il s'agit du thème du vivre ensemble, il s'agit du thème de l'idiorythmie, tel qu'en effet, ce thème est homologable, hein, en tant que, donc, à la question « qu'est-ce qu'un thème ?», hein, le thème est quelque chose qui a à voir avec un fantasme, quelque chose qui a à voir avec un imaginaire dans le cadre d'un cours, dans le cadre d'une pratique de savoir, d'une pratique d'enseignement. Hein? Donc le thème ne peut pas être réduit à un imaginaire, mais bien à un imaginaire dans le cadre d'une pratique épistémique. Alors, c'est donc cette hypothèse. J'ai cherché à l'éprouver, à la tester. Est-ce que Barthes me donnait des éléments qui confirmaient que c'était bien de cela dont il était question ? Eh bien, dans le résumé, voici comment il explique, comment il a procédé dans sa recherche et dans son enseignement. Il disait « Ma recherche aura consisté à ouvrir des dossiers. Ouvrir des dossiers. Chacun d'entre eux, chacun de ces dossiers, constituant, dit-il, un thème. » Voilà donc le mot. Le mot est là. Hein? Le mot de thème. Chacun constitue. Donc, il ouvre des dossiers, et chacun de ces dossiers constitue un thème. Où, dit-il, donc tout de suite il donne des synonymes à thème, ou trait, ou, dit-il encore, là, vos oreilles vont teinter après ce qu'on a dit hier, notamment la discussion que j'ai eue avec Yvan et avec Valdir, ou figure. Hein? Donc, figure, synonyme de thème. Mais ceci, donc, ne représente pas l'imaginaire du vivre ensemble. L'imaginaire du vivre ensemble, il est constitué, lui, de dossiers, chacun constituant un thème. Bon, enfin, tout de même, la notion de thème est là. Or, il continue en disant, on n'a pas repris ces thèmes dans une synthèse générale. Refus de la synthèse, donc. Il ne s'agit pas, dans le cours, en ouvrant des dossiers, d'essayer de rassembler ces dossiers dans une synthèse. Le cours ne propose pas une synthèse. On a préféré confronter les inflexions du vivre ensemble idiorythmique à l'image d'une utopie. d'une utopie. Je continue un tout petit peu avec le neutre. J'ai été donc consulté également le résumé de l'annuaire du neutre. Là encore, il dit que le sujet n'est pas exactement le neutre. En fait, le sujet du cours, c'est le désir de neutre. Le sujet du cours, ce n'est pas le neutre, c'est le désir de neutre. Et observez la majuscule. On ne parle donc pas le désir d'un objet qui serait strictement de langage ou même simplement notionnel. Il y a quelque chose qui est comme une idée peut-être utopique, justement. Quelque chose qui transcende les usages que l'on pourrait en faire. Alors, je lis un passage un peu long où il s'explique exactement là-dessus. Du neutre, dit-il, qui est au départ un genre grammatical, donc il est parti, encore une fois, d'une acception connue, l'acception linguistique, du neutre genre grammatical, on a induit une catégorie beaucoup plus générale à laquelle on a gardé le même nom. Mais que l'on a tenté d'observer et de décrire, non plus dans les faits de langue, mais dans les faits de discours. Étant entendu que ce mot, donc le mot de discours, Eliane, est-ce que je peux te demander une chose? C'est de m'apporter un verre d'eau.
Ah, c'est ça que je veux.
Oh, merci beaucoup. Étant entendu que ce mot, donc le mot de discours, s'applique à tout syntagme articulé par le sens. Autrement dit, texte littéraire, philosophique, mystique, mais aussi geste, comportement, conduite codée par la société, motion intérieure du sujet, motion c'est les mouvements, mouvement intérieur du sujet, tout cela fait partie du discours. Pourquoi ? Encore une fois, parce que le discours, c'est tout syntagme articulé par le sens. Vous voyez que c'est une conception extrêmement large du discours. Donc, observer et décrire la catégorie générale du neutre dans le discours, dans cette acception illimitée. Sur ce dernier point, ajoute-t-il, on a rappelé que toute recherche, s'agissant du moins des problèmes de la discursivité, des problèmes de la discursivité, donc, encore une fois, pas toute la discursivité, mais de ce qui, dans la discursivité, peut faire problème, toute recherche, s'agissant du moins des problèmes de la discursivité, doit assumer son originalité fantasmatique. Revoilà le fantasme. On étudie ce que l'on désire ou ce que l'on craint. Selon cette perspective, et revoilà donc la conclusion, l'intitulé authentique du cours aurait pu être « Le désir de neutre ». D'accord ? Il y a encore dans cet ordre-là, mais cette fois-ci dans le cours lui-même, dans le cours du cours, pendant le cours du cours. Que disait-il ? Comment a-t-il commenté la manière dont il enseignait ? Il disait que les traits, les figures ou les thèmes qu'il aborde dans ses dossiers ne demandent pas à être définis. Jamais il ne propose de définition. Ça ne constitue pas même des concepts, dit-il. Rejet d'une approche par concept. Que fait-il alors ? Il s'agit, dit-il, de les parfiler. Alors, parfiler, c'est un mot. J'ai dû aller voir au dictionnaire ce que ça signifiait, parce que c'est un mot. Un vieux mot. Un mot qu'on utilisait au Moyen-Âge. et jusqu'au XVIe siècle. C'est un mot qui a disparu de la langue française. Merci beaucoup, Eliane. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'il faut entendre dans ce mot ? Eh bien, évidemment, on entend d'abord une action de filage. On produit des fils. On tire des fils. Et on tire des fils de quoi ? D'une bobine ? Non. On tire des fils de la laine. De la laine du mouton. Hein ? On essaie de tirer, on file, on tire des fils de cette masse informe. Hein, de cette masse informe qui est probablement, qui est en fait donc l'imaginaire, le désir. Hein, de ce désir, on tire des fils. Hein. Donc, ça c'est la première chose. Ces fils, on les tire et en même temps, donc, on les distingue. On fait que, en tirant les fils, on fait des distinctions. Il y a donc un disparate. On ne tire pas qu'un seul fil. On tire plusieurs fils à la fois. Et en même temps, tirer les fils, ça permet aussi de les mettre en relief. Hein, de cette masse à forme, de cette masse amorphe, informe, on met des choses en relief. On les met en évidence. Voilà ce qu'il faut entendre, je crois, dans la notion de parfiler. Parfiler des thèmes, des traits, des figures. Ça consiste donc d'une part à tout de même aller encore une fois à les tirer de l'informe, hein, à les extraire et à les mettre en relief, mais sans pour autant que il n'y a pas qu'un seul fil, hein, d'accord. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais tout de même, s'il s'agit d'un enseignement, l'enseignement, il a commencé lors d'une première leçon, ce sont des leçons de 2 heures, il y en a eu 12, oui, maintenant, voilà, c'est ça, c'est 24 heures parce qu'il y a eu 12 leçons. Et 12 leçons, donc c'est 24 heures, ça a dû suivre un ordre tout de même. Donc comment se fait-il qu'il y a plusieurs fils, hein? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rassembler ça dans un seul fil? Eh bien, effectivement, c'est un problème pour Barthes. C'est un problème que l'enseignement soit linéaire et que l'attente des étudiants et qu'on suive une argumentation linéaire où on va d'un point A à un point B. B, C ou jusqu'à Z, hein, ou en tout cas jusqu'à M, N, hein, et que cet ordre-là est tout simplement celui de la chronologie du cours. Comment a-t-il fait pour déjouer la chronologie du cours, pour l'esquiver, si vous préférez? Eh bien, il a tout simplement proposé, pour le comment vivre ensemble, il a proposé un ordre alphabétique. Donc, il avait ses dossiers, et les dossiers, il les a présentés dans l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, c'est-à-dire le non-ordre, le non-ordre. Il n'y a pas d'ordre. Hein? On tire chaque fil, mais il n'y a pas des fils entre les fils. Ça ne crée pas justement un texte, hein? Un tissage. C'est un filage, mais ce n'est pas un tissage. Hein? Dans le neutre, il est allé plus loin. Pourquoi est-il allé plus loin? Parce que malgré tout, l'ordre alphabétique, il est vite. On peut vite esquiver son désordre. On peut esquiver l'esquive. À savoir qu'on peut s'arranger avec l'ordre alphabétique en nommant une figure pour qu'elle arrive vite dans les premières lettres de l'alphabet. Et les dossiers dont on voudrait quand même qu'ils arrivent à la fin, eh bien, on trouve à mettre un intitulé de dossier vers la fin de l'alphabet.
Zoosémiotique.
Voilà, par exemple, c'est ça, si on veut, par exemple, parler, on a une fiche, et c'est le cas pour le vivre ensemble, de animal, hein, eh bien, bon, commencer par l'animal, c'est embêtant d'en vivre ensemble, bon, zoosémiotique, et ça marche, et ça arrive à la fin. Vous voyez, on peut tricher avec ce nom-ordre, et donc, pour le cours suivant, il les a tirés au sort. il a mis les fiches dans un sac et il a tiré au sort les fiches. Et hop, voilà, aujourd'hui c'est ça. Hein, on parle de ça. Hein, donc vous voyez bien, donc il y a là toute une stratégie discursive, encore une fois, une stratégie épistémique, une stratégie de connaissance faite pour déjouer l'ordre attendu d'un enseignement ex cathedra. Et tout cela, donc encore une fois, pour préserver l'isolement des figures. Qu'est-ce qu'il y avait donc alors, quels étaient les dossiers, je vous dis quand même un petit peu aussi pour que vous rendiez compte. Donc dans le comment vivre ensemble, je ne vais pas énumérer toute la série, mais j'en donne quelques-uns. Donc le nom des dossiers, il y avait animaux, bureaucratie, écoute, fleurs, nom, les nomi, hein, nom, rectangle, saleté. Comment est-ce que vous voulez mettre tout ça dans une synthèse?
Jusqu'à animaux et bureaucratie, ça allait encore, il y avait un rapport. Animaux de basse cour, mais
ouais, c'est un challenge. Voilà. Voyez bien, il y a là une volonté affirmée justement de ne pas produire de synthèse, même implicite. Hein. Au fond, s'il faut quand même dire, bah oui, mais tout ça est quand même ensemble, c'est là, hein, dans un cours. Qu'est-ce qui tient les choses ensemble? Juste l'imaginaire du chercheur. C'est l'imaginaire qui tient ça ensemble. Et pour une recherche, puisqu'il s'agit bien d'un cours, pour une recherche qui invite à la participation, même s'il s'agit d'un cours ex cathedra, qui essaie de transmettre un désir, le désir de la recherche, qui fait irradier le sens plutôt que la connaissance. Il ne s'agit pas d'apprendre à ce que c'est que le vivre ensemble, mais de faire irradier le sens du vivre ensemble auprès de ses auditeurs. Hein, que ce thème, c'est à ça que je vais venir, hein, en tout cas que cette catégorie générale, qu'elle soit, bon, qu'elle soit pleine de résonance, pleine d'écho, pour revenir au terme qu'en va employer Trousson. Hein, et le terme de Barthes, ça va être celui de scintillation. Je le dis à la manière de Mallarmé. Scintillation, si on le dit. Qu'est-ce qui scintille? En principe, ce sont les étoiles. Hein, ce qui est très 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 loin dans le ciel. Mais voilà, donc on a toute une série de petites lumières clignotantes. Et en même temps, c'est toujours euphorisant. Hein, les scintillations, c'est pas un flash. Hein, c'est pas, ça ne veugle pas, la scintillation de quelque chose, c'est toujours relativement doux. Hein, et donc, la vision des scintillations, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la subjectivité. Hein, ce n'est pas un phénomène objectif que celui de la scintillation.
En portugais, c'est le même mot.
Ah, d'accord, tant mieux. Voilà ces traits, ces termes, ces figures, ils scintillent comme quoi, au fond? C'est quoi cette scintillation? Eh bien, je pense que c'est, on pourrait le dire, que ce qui rassemble les thèmes, les traits, les figures, on a parlé d'imaginaire, mais au fond, la scintillation, c'est une variété. Ce n'est pas la variété d'un invariant, c'est une variété. C'est ça, c'est ce qui varie. Autrement, et la seule chose qui tient, encore une fois, parce que dans un cours, ce qui tient ensemble ces traits, c'est un discours. Et il se fait que au séminaire, je vous ai dit qu'au Collège de France, il y a un cours ex cathedra et un séminaire, et l'objet, le thème du séminaire, c'était: qu'est-ce que tenir un discours? précisément. Tenir un discours, donc, c'est à tenir un discours. Ça, je ne sais pas si en portugais vous avez la même expression de tenir un discours, mais tenir un discours, c'est s'engager dedans. C'est à la fois prononcer le discours, mais être engagé dans son énonciation. Hein, donc, tenir une position dans le discours que l'on énonce. Hein, c'est au fond donc, c'est s'avancer soi-même dans le discours que l'on profère. C'est ça, tenir un discours. Et là, ce que Barthes fait, c'est ça. Hein, tenir un discours, c'est avancer son propre imaginaire, le proposer à ses auditeurs dans une démarche qui est tout de même dans un cadre de connaissance, dans un cadre de savoir, où au moins, au minimum, ce qui est en jeu, c'est le sens. Ce sont des questions de sens, non pas des questions d'émotion pure, mais des questions de sens. Pour encore autre chose à ce propos, c'est que l'exploration même de chaque trait, de chaque figure, ne refoule aucun matériau. Et non seulement dans le temps de la préparation du discours, c'est-à-dire la préparation du cours, mais même dans le temps même de la profération du discours. Et comment est-ce qu'on voit ça? Eh bien, tout simplement, Roland Barthes, et c'est là où je parlais de participation, Roland Barthes accepte que les étudiants, enfin non pas les étudiants, que les auditeurs, parce qu'il y a là des pairs, des personnes... Enfin, vous savez, au Collège de France, on n'a pas besoin de s'inscrire. Hein, donc tout le monde peut venir au Collège de France sans même être inscrit. C'est vraiment l'université libre. Hein, c'est ça l'idée du Collège de France. Et donc, à la fin de chaque cours, on peut venir le trouver et réagir. Hein, il est là pour entendre les réactions, les questions. Et un certain nombre de personnes lui laissent, parce qu'il l'avait suggéré, mettre ses réactions par écrit. Il reçoit des petits billets. Donc, il lit tous ces petits billets et au cours suivant, il commence le cours en réagissant à un certain nombre de ces billets. Or, il se fait que donc ces cours sont aujourd'hui publiés. Ce que l'on a publié de ces cours, ce sont les notes du professeur. Donc, ce n'est pas l'audition, même si on a également l'enregistrement. Et entre l'enregistrement et les notes, il y a peu de différences. Il y en a, elles sont intéressantes à regarder. Enfin, il y en a peu. Donc, ce que l'on a, ce sont les notes plus justement les suppléments qui sont donc les réactions de Barthes pendant les cours. Or, ces suppléments prennent beaucoup de temps. On remarque que Barthes peut passer une heure dans les deux heures du cours à répondre, à réagir aux réactions elles-mêmes, aux demandes des étudiants. Donc on voit que chaque dossier stimule, suscite une interaction, et que donc dans ce cours de désir, effectivement, il y a une circulation fantasmatique, une circulation du désir. Je voulais dire une petite chose à la fin, mais je vais le dire maintenant. J'espère que ça ne va pas me jouer des tours dans ma présentation. Il y a encore une chose que je voudrais dire à propos de la manière dont les thèmes, donc chaque thème, chaque trait, chaque figure est abordé par Roland Barthes dans les dossiers, c'est que je vous ai dit, ça ne refoule aucun matériau. En réalité, ça refoule si peu de matériaux que le plus souvent, Roland Barthes va utiliser ce qu'on appelle de la littérature secondaire et non pas des sources premières. Par exemple, dans le comment vivre ensemble, mais aussi dans le neutre, il va faire beaucoup d'allusions au bouddhisme, et en particulier au bouddhisme, le Tao, c'est-à-dire à la version japonaise du bouddhisme. Mais quelle est la littérature sur laquelle il s'appuie? Des introductions en français sur le bouddhisme, hein, et des introductions, tout ce qu'il y a plus grand public. Non pas des études savantes, hein, non pas des études extrêmement érudites, mais lui ne sachant rien du japonais ni du portugais, mais vraiment donc des commentaires qui ont déjà été faits sur le bouddhisme. Hein. Autrement dit, encore une fois, je vous rappelle que c'est l'institution la plus prestigieuse de tout le système, de tout l'appareillage de l'enseignement français. Hein. Et donc, ce que Barthes propose dans ses dossiers, ce n'est pas un savoir de pointe, un savoir original, mais c'est un savoir de seconde main. Un savoir qui est non autorisé, précisément. Hein. Non pas un savoir d'auteur, mais un savoir de passeur. Ou, comme il le dit lui-même, il est plutôt l'animateur du savoir. Il l'anime, encore une fois. Hein. Animer, ça veut dire il le dynamise, il le fait scintiller. Hein. Mais il n'en est pas l'auteur. Sa recherche n'est pas une recherche de connaissance. C'est une recherche du sens, ce qui est autre chose que celle de la connaissance, en tout cas une connaissance telle qu'on pourrait l'entendre dans quoi ? Dans les pratiques disciplinaires du savoir. D'accord ? C'en est un point qu'encore une fois, lors d'un de ces suppléments, c'est-à-dire il doit répondre à quelqu'un qui lui dit précisément qu'il n'a rien compris du bouddhisme. Et alors c'est à propos donc du dossier Fleurs, où ça c'était pour le neutre. Donc c'est dans le neutre. Barthes rapporte que le maître Tao offre une fleur à son disciple, hein, et il en fait une illustration de la, voilà, c'est ça, je me rappelle maintenant, il en fait une illustration de la délicatesse. C'est le dossier délicatesse dans le neutre, parce que la délicatesse c'est une forme du neutre dans le fantasme de Barthes, hein, dans l'imaginaire barthésien, dans le désir du neutre barthésien, la délicatesse est un trait du neutre. Hein. Et il donne donc cette anecdote. Et il commente l'anecdote en disant, voyez, c'est de la délicatesse. Et donc il y a là probablement un auteur, un auditeur qui est féru, qui est un érudit du bouddhisme, et qui dit, mais je suis désolé, monsieur le grand professeur, mais c'est pas du tout une question de délicatesse. Hein. Et il lui explique en long et en large. À quoi Barthes réagit en disant, non mais je ne prétends rien savoir sur le bouddhisme et je ne prétends rien vous enseigner sur la vérité du bouddhisme. Hein? Donc il s'agit non seulement d'un savoir non autorisé, un savoir de seconde main, mais d'un savoir qui peut pervertir même, enfin d'un mode d'enseignement qui peut pervertir une vérité, hein, un savoir qui serait à l'horizon de la vérité. Et il doit encore répéter que ce qui lui importe, c'est le fantasme que ça soulève en lui. C'est bien de cela qu'il s'agit. On voit les difficultés devant auxquelles il est confronté, même devant ses auditeurs, pour que ses auditeurs reçoivent son enseignement, s'il s'agit bien d'un enseignement. Hein? C'est un enseignement qui ne prétend pas du tout à la vérité et qui peut même formuler des contre-vérités.
On essaie d'arranger la climatisation.
Ah, d'accord.
Mais là, c'est là que j'ai.
Parce que ça fait trop de bruit ou,
non, parce qu'on a trop chaud.
On a un peu chaud, hein, oui.
Apparemment, ça ne marche pas. Hein.
C'est vrai qu'il fait un peu chaud maintenant. Je ne m'étais pas bien rendu compte, mais c'est vrai. Ah, je crois que c'est réglé. Il a fallu que vous me le disiez pour que je m'en rende compte. Mais ça, ça m'intéresse beaucoup.
On aurait dû se taire.
Alors, donc voilà. Alors, bon, ce que, donc, jusqu'ici, je m'en suis tenu donc à relater ce que Barthes disait. Ce que je vais ajouter, ce que je me permets d'ajouter, c'est simplement que le neutre lui-même, ou du moins le désir de neutre, le fantasme de vivre ensemble, je peux l'appeler un thème lui aussi. Hein? Pourquoi ? Précisément parce que rien ne rassemble les thèmes très figures dans la synthèse. C'est donc que le neutre lui-même n'est pas autre chose qu'un thème. Il est à l'instar des dossiers qu'il a ouverts. Il y a cette catégorie plus générale, en fait, n'est pas une catégorie puisqu'elle ne rassemble pas vraiment. Elle n'a rien de plus, elle n'a rien de rassembleur en réalité. Hein? Elle ne suit pas un ordre chronologique, il n'y a pas de point commun, il n'y a pas quelque chose de conceptualisable. Hein? Donc en réalité, le neutre ou le vivre ensemble est un thème à l'instar des thèmes qui sont proposés pendant le cours. Donc, voilà, ça c'est la dernière chose que je voulais vous dire. Donc, il me semble bien que l'enseignement de Barthes au Collège de France, au moins durant les deux premières années, a bien été une démarche consistant donc à aborder un thème particulier dans un cadre qui est un cadre épistémique, un cadre d'enseignement de la connaissance, d'enseignement du savoir, même si il est vrai que la nature même de la connaissance est épistémologiquement compliquée, puisque, par exemple, il ne s'agit pas de dire le vrai. Hein? C'est une connaissance qui est déliée de l'horizon de vérité, mais qui se dit à l'horizon, à un horizon fantasmatique, un horizon imaginaire, de tenir un discours, c'est-à-dire de s'engager dans un discours, de s'investir dans un discours et de le tenir devant un auditoire, c'est-à-dire de le partager, hein, et de susciter des réactions par rapport à ce discours. Voilà ce que c'est donc un thème, précisément comme objet épistémique, même si cette connaissance est une connaissance très particulière à mon avis. Alors maintenant, je voudrais que nous réfléchissions un peu à la portée de cet enseignement pour la sémiotique, pour la sémiologie, parce que comme vous le savez, Barthes a des rapports tout de même, tout au long de sa carrière, avec la sémiotique. Ce n'est pas quelqu'un qui est éloigné du destin de la sémiotique. Donc, je voudrais qu'on regarde un petit peu, plus précisément, quel est le rapport de Barthes avec la sémiotique.
Alors, pour cela,
commencerais par essayer de... J'essaie de...
Oui. Oui.
Oui. Une question tout à fait pratique.
Oui.
Apparemment, la clim ne marche pas, ne marche plus.
Ok. On va attendre.
Je voudrais juste te demander si tu es d'accord. On pourrait essayer de changer de salle.
Faisons.
On fait une pause de 5 minutes.
Oui.
On change de salle.
Oui, si ça ne marche pas. Oui.
Puis après, on poursuit dans des conditions moins éprouvantes.
Oui, d'accord.
Dès que ça, aussi de
oui, c'est vrai. Oui.
Donc,
si on dit qu'il faut essayer de
pas de ça
va être
aperto aqui.
Ai.
Menos.